Le jeudi, c'est Parlement fédéral et cette semaine, il y a un gros bonus budget. Le gouvernement de Wever attend que sa majorité vote son budget 2025.
Le débat budgétaire, c'est toujours un moment électrique et encore un peu plus pour un nouveau gouvernement. Mais cette fois-ci, Imad, on semble être allé un peu plus loin que d'habitude. Vous êtes à la Chambre, vous avez suivi les débats toute la journée. Ils sont toujours en cours, on le devine avec le son là qu'on entend.
Ouais, j'ai passé la journée dans les tribunes et dans les couloirs de la Chambre. C'était un petit peu plus calme qu'hier où c'est monté très haut dans les décibels. La faute à l'absence de quorum. Le quorum, ça signifie que la majorité n'était pas présente au nombre et donc le débat budgétaire n'a pas pu avoir lieu le matin, de quoi échauffer les esprits de l'opposition. Et puis, il y a eu cet incident véritablement unique. Ni les ébrisqueurs du Parlement ni l'intelligence artificielle n'ont trouvé trace d'un précédent en presque 200 ans. Un député, en l'occurrence Mathieu Michel, a voté à la place de son collègue de l'Éducat lors d'un vote de vérification du quorum. Les images ou vidéos sont sur le site de la Chambre et c'est assez hallucinant. On voit de l'Éducat rejoindre son banc 30 secondes après que son vote ait été effectué. Sur le principe, ça dépasse véritablement l'entendement et donc ça s'est fortement envenimé. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive depuis la mise en place de ce gouvernement fédéral. Le chef de groupe socialiste, Pierre-Yves Dermagne, n'a aucun problème avec l'expression de la conflictualité, c'est ça la politique, mais selon lui, le travail, l'atmosphère à la Chambre des représentants a changé et pas en bien.
On constate effectivement depuis un certain temps l'utilisation du travail parlementaire pour les réseaux sociaux, pour réaliser des capsules, des vidéos. Je dirais que c'est de bonne guerre. Et puis à côté de ça, il y a aussi un respect qui s'est perdu pour les parlementaires de l'opposition. Moi, je respecte qu'il y ait effectivement une majorité, mais cette majorité, elle doit être respectueuse du travail de l'opposition, qui contrôle le gouvernement, qui contrôle l'action de la majorité. C'est vrai que depuis un certain temps, on est face à toute une série d'anicroches et de comportements qui ne devraient pas avoir leur place dans une assemblée parlementaire.
Alors en face, évidemment, on répond du tac au tac. Georges-Louis Boucher admet que sa personnalité, le fait, je cite, qu'il réponde, qu'il ne se laisse pas faire, ça provoque des éclats. Mais pour le président du MR, la raison de la dégradation de l'ambiance à la Chambre, elle ne se trouve pas dans son parti, mais ailleurs. Écoutez-le.
Chaque fois qu'on a l'occasion d'évoquer quelque chose, ça suscite une certaine émotion dans le chef de mes collègues. Mais c'est tout le temps comme ça quand le PS est dans l'opposition. Vérifier les années 80, vérifier sous la Suédoise, vérifier encore aujourd'hui. On n'a jamais assisté à de tels comportements quand ils sont dans le gouvernement. Et donc voilà, c'est leur méthode de faire. Quand vous n'avez pas d'argument, eh bien vous essayez de créer des incidents au fur et à mesure. Je pense effectivement que ça n'est pas digne et franchement, ça n'amène rien. Parce qu'à part un abaissement généralisé de l'estime que les gens ont pour la politique, je ne vois pas qui peut gagner dans ce genre de séquence.
Imad, on se souvient de l'installation de ce gouvernement, des débuts de la Suédoise qui était ici évoquée par Georges-Louis Boucher, le bruit des bottes, comme disait Laurette Onkelinx. Cette dégradation de l'atmosphère à la Chambre est-elle si neuve que ça ?
Alors, est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Le journaliste du Vif, Nicolas Dedecker, hante jour et nuit les couloirs du Parlement et il souligne deux éléments intéressants sur cette dégradation de l'ambiance au sein du pouvoir législatif.
Mais je pense d'une part que c'est corrélé à la dégradation générale du débat public. Et puis d'autre part, il y a quand même, depuis qu'existent les parlements, les parlementaires et les observateurs des parlements se plaignent de la dégradation de la qualité des débats parlementaires dans les hémicycles. C'est Auguste Reinhardt, c'est un catholique, et il dénonce, je cite les discours, « la baisse du niveau des débats parlementaires ». On était en 1884, il n'y avait pas encore TikTok, il n'y avait pas encore Georges-Louis Boucher, mais on se plaignait déjà.
Voilà, depuis 1884, on se plaint de la baisse de la qualité des débats. Ici, en tout cas, les travaux ont repris. La plupart des députés absents hier sont revenus. Le vote devrait intervenir ce soir ou cette nuit. C'est une nouvelle péripétie dont le Parlement se serait bien passé. À voir quand même ce qui se passera avec Mathieu Michel. Parce que voter pour un collègue, vraiment, ça ne se fait pas.
Imad Messoudi en direct de la Chambre ce soir. Israël a frappé l'Iran pour la 7e nuit consécutive dans le cadre de son offensive.
Le président américain Donald Trump, lui, n'exclut pas une entrée en guerre des États-Unis. C'est ce qu'il sous-entend dans ses messages répétés sur les réseaux sociaux. Et cela pour briser, dit-il, le programme nucléaire de Téhéran. Mais l'hésitation, elle est palpable et dans son propre camp, on le voit, les avis sont très partagés.
Waouh, on va essayer de comprendre avec vous ce qui motiverait ou ce qui pourrait retenir à l'inverse Donald Trump d'impliquer les États-Unis dans ce nouveau conflit.
Oui, alors on a beaucoup parlé de cette base de l'électorat de Donald Trump, la base MAGA, qui serait radicalement opposée à une intervention militaire, quelle qu'elle soit, dans ce camp qui fait face aux faucons favorables à une intervention. Plusieurs personnalités MAGA ont élevé leur voix ces derniers jours. Et dans un sondage publié par Forbes hier, 53% des électeurs de Donald Trump en 2024 disent que les États-Unis ne doivent pas entrer en guerre. Mais est-ce que Donald Trump a peur de décevoir sa base électorale? Romuald Chora, chercheur associé à l'IRIS de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, est interrogé par Philippe Antoine et il est catégorique. Écoutez.
Non, cela fait 10 ans que l'on annonce qu'une partie du parti républicain est en train de lâcher Donald Trump. Non. Que l'on appelle la nation MAGA, ce sont les supporters essentiellement de Donald Trump qui de toute façon le suivront en enfer. Pour ce qui est du Parti républicain, effectivement il y a une division, mais historique je dirais, depuis le début du XXe siècle entre les isolationnistes et les interventionnistes. Donc nous avons d'un côté des partisans d'une non-intervention essentiellement représentés au sein de l'administration par J.D. Vance mais aussi par la secrétaire générale de la Maison-Blanche, Suzy Wills, et les néoconservateurs dont le représentant principal au sein de la nouvelle administration, évidemment Marco Rubio, le secrétaire d'État. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a une fracture, ce n'est pas nouveau, mais si Trump décide d'entrer en guerre aux côtés d'Israël, le parti républicain suivra comme un seul homme.
Et cela malgré les voix aujourd'hui dissonantes.
Mais à quoi tiennent ces apparentes hésitations, Waoub?
En fait, Donald Trump le répète, ce qu'il veut, c'est la fin du programme nucléaire iranien. Washington tentait d'ailleurs de négocier avec Téhéran un nouvel accord sur le nucléaire depuis le mois de mars. Or, Israël a pris la main depuis son attaque la semaine dernière. Et pour Serge Jomin, professeur à l'ULB, cela lui complique les choses.
On a l'impression qu'il est en quelque sorte entraîné dans le conflit par Israël. Et on a l'impression qu'il n'a pas entièrement la maîtrise sur ce que fait le Premier ministre israélien. Certes, ils sont en discussion, certes, Israël dépend entièrement ou très fortement des États-Unis. Mais la séquence est tout de même un peu particulière puisque les États-Unis étaient en négociation avec l'Iran et soudain, il y a cette attaque dont on peut penser que Trump était informé, mais la particularité, c'est qu'on a un peu le sentiment qu'il n'arrive pas à imposer son point de vue à Israël.
D'autant plus qu'il y a des nuances entre les motivations américaines et israéliennes. Les diatribes de Benjamin Netanyahou se font de plus en plus nombreuses pour exiger un changement de régime en Iran. S'engager sur le terrain aux côtés d'Israël pourrait donc entraîner les États-Unis dans un conflit beaucoup plus long, avec le risque de s'embourber, mais aussi de perdre à ce moment-là le soutien de ses électeurs les plus fidèles.
Et qu'en pensent justement ces plus fidèles conseillers?
C'est sans doute là que le bas blesse. C'est ce que pense Serge Jomin au sein de son entourage le plus proche. Écoutez.
Un des éléments majeurs que l'on voit apparaître ici, c'est la problématique des conseillers qui l'entourent, dans le sens où il a une équipe autour de lui qui est très peu expérimentée et ce sont des courtisans, c'est-à-dire qu'ils ont été choisis du fait de leur loyauté. Et donc, on a un petit peu l'impression qu'il n'y a personne pour être en mesure d'influencer sa décision et de le conseiller, je dirais, en toute objectivité. Il doit arbitrer des avis, des tendances différentes au sein de ses partisans et on voit très clairement qu'il est en difficulté.
Ce conflit semble bien être une véritable épine dans le pied du président américain.
Merci à vous, Waoub. Et pendant ce temps, l'Europe, elle peine à peser sur le cours des événements.
Oui, Frédéric Saïs, vous êtes à Paris. C'est peut-être particulièrement vrai ce sentiment d'impuissance en France.
Oui, les appels à la désescalade semblent bien dérisoires au 7e jour de cette guerre. Quelques heures après les premières attaques israéliennes contre l'Iran vendredi dernier, la France avait soutenu dans un communiqué le droit d'Israël à se défendre. Mais depuis, les objectifs de guerre israéliens se sont élargis. Il ne s'agit plus seulement de bombarder les cibles en lien avec le programme nucléaire, mais aussi des dépôts de carburant, des raffineries de pétrole, des ministères, des postes de police, comme si le but était un changement de régime par la force. Emmanuel Macron estime qu'une telle option serait une erreur et qu'elle aboutirait, je cite, au chaos. Voilà pourquoi le président français appelle désormais Israël à cesser les frappes sans lien avec le programme nucléaire et balistique iranien. Il demande également un cessez-le-feu le plus rapide possible.
Et cette question du cessez-le-feu a d'ailleurs valu à Emmanuel Macron des remarques acerbes de la part de Donald Trump.
Oui, le président français qui pensait pouvoir dire à la presse que si Donald Trump avait quitté le sommet du G7 en avance, c'est parce qu'il voulait négocier un cessez-le-feu. Démenti furieux du président américain sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron est à la recherche de publicité. Il fait erreur, écrit Donald Trump. Mon retour n'a rien à voir avec un cessez-le-feu, c'est bien plus important que cela. Qu'il le fasse exprès ou pas, Emmanuel a toujours tout faux. Message enflammé de Donald Trump sur son réau social. Quelques minutes plus tard, face aux journalistes, il a légèrement adouci son propos, je cite « Emmanuel est un homme sympathique, mais il se trompe souvent ».
Il a réagi comment, Emmanuel Macron ?
Eh bien, il a refusé d'entrer dans la confrontation verbale. Interrogé sur la manière dont il recevait ses critiques, voici sa réponse.
Comme une péripétie. Ça n'est pas les premières, ce ne sont pas les dernières. Il a des mots extrêmement amicaux. Il a voulu remettre de l'ambiguïté dans sa position. Très bien, il a donc dit qu'il n'allait pas discuter un cessez-le-feu. Ça ne m'émeut pas.
Emmanuel Macron, pas ému, mais au-delà du côté anecdotique, cette scène est riche d'enseignements. Le ton de Donald Trump signifie une chose, qu'il ne compte pas écouter les Européens sur le dossier iranien. L'acrimonie envers Emmanuel Macron était une manière de faire un exemple, d'avertir tous les autres Européens. Tenez-vous tranquille. D'ailleurs, souvenez-vous, sur ce dossier iranien, c'est Donald Trump, en 2018, qui avait déchiré l'accord sur le nucléaire, patiemment négocié depuis des années, notamment par trois pays européens, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.
Des Européens désormais divisés au sujet de l'Iran, Fred.
Oui, le chancelier allemand, lui, est favorable à un renversement du pouvoir iranien par la force. Friedrich Merz estime même, vous l'avez entendu, qu'Israël, je cite, a le courage de faire le sale boulot pour nous tous. C'est évidemment éloigné de la position d'Emmanuel Macron. Paris, Londres et Berlin vont malgré tout tenter de faire front commun. Les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays doivent rencontrer demain à Genève le chef de la diplomatie iranienne. Il s'agira de montrer un visage uni et de porter une voix forte qui oblige Donald Trump à l'entendre.
Frédéric Saïs, vous êtes notre correspondant à Paris. Merci à vous. C'était le carrefour du monde en direct de ce jeudi.